Donc, paroles et communautés dans les poésies du monde africain. Bon, c'est un titre très très large. Évidemment, en 20 minutes, on va pas avoir le temps de traiter cette question totalement. En fait, je veux juste poser avec vous, voilà, un cadre général, quelques éléments de réflexion et puis surtout des exemples. Vous voyez que je vous ai, dans le polycopier que je vous ai passé, vous avez une sélection de textes. On n'aura pas forcément le temps de tous les lire ou les regarder ensemble. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez découvrir un certain nombre de poètes qui ne sont pas forcément très connus. Et puis à la fin, je vous ai mis une petite bibliographie, voilà, avec des lectures qui permettent de découvrir ce domaine, si jamais cela vous intéresse. Alors... on va partir en fait d'une question très très simple, mais qui a l'air très simple, qui ne l'est pas forcément tant que ça, c'est pourquoi la parole collective est-elle aussi importante dans les poésies d'Afrique et plus généralement du monde africain? Donc on va partir de ce constat tout simple. Dans ces poésies, on dit plus souvent « nous » que « je ». Hein, on a l'habitude, on a une vision, bon, qui n'est pas forcément juste, mais une vision de la poésie comme étant forcément lyrique, c'est le « je ». Voilà, qui raconte ses sentiments, etc. Ça, c'est une vision qu'on a ici. Eh ben, dans les poésies d'Afrique, de la Caraïbe, etc., on dit plus souvent « nous » que « je ». Donc voilà, on part de ce constat, et puis ensemble, on va essayer de voir, d'aller au-delà du constat. Pourquoi y a-t-il une parole collective si importante dans ces poésies ? Alors, une autre chose qui va pas du tout de soi, c'est l'expression qui est dans mon titre. Vous allez me dire « l'Afrique, je vois ce que c'est, le monde africain, qu'est-ce que c'est ?» C'est pas évident comme expression, et vous auriez raison de me dire ça. Donc, monde africain, c'est pas mon expression, c'est une expression que j'emprunte à un écrivain qui s'appelle Wole Soyinka. C'est le premier écrivain africain qui a eu le prix Nobel de littérature, donc en 1986, un écrivain du Nigeria. Et donc, il a écrit un livre, voilà, où il parle de ça, ce qu'il appelle le monde africain. Donc, qu'est-ce que c'est le monde africain? Bien sûr, c'est l'Afrique. Mais c'est pas forcément un territoire précis qu'on peut délimiter, auquel on peut donner des frontières. C'est une réalité culturelle qui est plus compliquée, en fait, le monde africain. Ça implique, certes, l'Afrique, mais aussi d'autres parties du monde où, voilà, les cultures africaines ont eu un impact, ont eu des effets, etc. Donc... Ça force à aller au-delà simplement d'un territoire qu'on peut voir sur une carte qui serait l'Afrique. Comme vous savez, donc l'Afrique a été le théâtre de très nombreuses influences venues d'ailleurs. Donc déjà une influence islamique et puis la colonisation européenne. Donc ça c'est la première chose. L'Afrique telle que nous la connaissons aujourd'hui est très différente évidemment de ce qu'elle était avant donc l'islamisation et avant la colonisation européenne, bien sûr. Donc c'est évident. Un autre phénomène historique décisif, ça a été la traite négrière, l'esclavage, qui a fait partir plusieurs millions d'Africains. Voilà, ailleurs, hors d'Afrique, en particulier dans les Amériques. Voilà, États-Unis, Brésil, Cuba, Jamaïque, etc. Donc, le monde africain, c'est quelque chose de très large qui nous force à penser autrement que par pays. C'est pas un pays précis, c'est même pas un continent précis, c'est quelque chose de plus large. Et quand cet écrivain, Wole Soyinka, parle de monde africain, il désigne tout simplement les lieux, les endroits, ou plus généralement les pratiques artistiques, au sens très large, littérature, musique, théâtre, etc., qui témoignent d'un rapport avec les cultures propres à l'Afrique, les cultures, en fait, précoloniales, les cultures qui étaient là, en Afrique, les cultures autochtones, qui étaient là avant la colonisation. Donc, ce point sur mon titre, là, c'est pas seulement pour vous dire que mon titre est juste et super, c'est pas du tout ça, c'est que vous voyez que l'ambiguïté même de ce que c'est le monde africain, ça n'est pas sans rapport avec la parole collective. Hein, quand on dit « nous », ça peut nous paraître évident, si nous sommes français, allemands, etc., et que nous voyons ce rapport à notre nation comme étant évident, voilà, nous les Français, nous les Allemands, nous les Italiens, ce « nous », il va de soi, en quelque sorte. Et bien, nous voyons que dans le monde africain, par le phénomène de la colonisation, enfin, les deux gros phénomènes étant la colonisation et la traite transatlantique, c'est-à-dire qui a apporté des plus de 10 millions de personnes africaines dans les Amériques, Afrique, cette communauté, elle va pas du tout de soi. Hein. Dire nous, c'est pas du tout évident. Qui est ce nous? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Ça ne va pas du tout de soi. Donc voilà, c'est un premier point. Alors deux trois petits détails historiques. Je vais pas vous assommer avec des dates, mais pour qu'on sache exactement de quoi on parle. Les cultures d'Afrique, moi, elles sont très très anciennes. Voilà, quand on parle des cultures africaines précoloniales, on se réfère notamment aux grandes entités politiques qui ont existé en Afrique avant la colonisation. En même temps que ce qui était pour nous le Moyen Âge, hein, en gros, donc 13e siècle pour l'Empire Congo, 14e pour l'Empire Bouganda, de l'actuel Ouganda, etc. Bon, c'est juste des exemples, mais pendant notre Moyen Âge, il y avait des entités politiques, culturelles, dont aujourd'hui il reste des traces non seulement archéologiques, mais aussi il y a une certaine continuité culturelle dans certains pays. Voilà. Donc la colonisation, elle a eu lieu à partir du 15e siècle par les Européens. Mais pendant très longtemps, c'était juste une présence assez légère, surtout dans les parties côtières. Et c'est seulement à la fin du 19e que les Européens vont explorer l'intérieur de l'Afrique et vont vraiment s'accaparer l'Afrique. Dans les années 1870, seulement 10% du continent était occupé par des Européens, donc c'était relativement mineur par rapport à ce que ça a été plus tard. Et quelques années plus tard seulement, en 1914, il ne restait plus que l'Éthiopie et le Libéria qui étaient indépendants. Donc en vraiment quelques décennies, l'Europe s'accapare l'Afrique avec la célèbre conférence de Berlin 1884, où les grandes puissances européennes se partagent l'Afrique, vraiment tracent des traits. C'est pour ça que si vous regardez une carte d'Afrique, les frontières sont toutes droites, tracées à la règle. Voilà. Alors bon, ça c'est pour la partie colonisation avec les indépendances, comme vous savez, dans les années à partir de 50 à 70. Et c'est pas du tout un hasard si les poèmes que je vous ai mis sur ce polycopier. Donc qui sont des poèmes du monde entier, de tout ce monde africain, que ça soit donc l'Afrique elle-même, Sénégal, Cameroun, Mozambique, Nigeria, que ça soit dans les Amériques où il y a eu une forte arrivée de personnes africaines suite à l'esclavage, donc États-Unis, Cuba, Brésil, Guyane, Guadeloupe, ou même dans l'océan Indien avec l'île Maurice. Eh bien ces poèmes, ils datent tous des années 50 à 70 en gros. Donc c'est concomitant avec la période de la décolonisation et aussi la lutte pour les droits des Noirs aux États-Unis ou ailleurs contre la ségrégation, etc. Voilà. Donc ça c'est un cadre historique très général. Donc je rappellerai juste très rapidement que dans les Amériques, l'esclavage est aboli. Entre 1833, c'est dans les colonies britanniques, donc la première abolition, 48 pour la France, 65 pour les États-Unis, donc après la guerre de sécession, 86 Cuba, 88 Brésil. Donc la fin du 19e siècle, c'est les abolitions, c'est-à-dire que c'est après ce moment que les pays vont devoir se demander, finalement, qu'est-ce qu'on fait de ces anciens esclaves qui sont devenus des citoyens, qui ont le droit maintenant d'avoir une éducation, de posséder des choses et tout, quel est leur rôle dans notre pays? Voilà, c'est pas eux qui ont demandé à venir, ils sont là, maintenant ils font partie de la population. Donc ça pose des vraies questions pour tous ces pays. Qui sommes-nous? Sommes-nous européens? Voilà. Donc ça c'est le cadre historique. Alors maintenant, donc vous voyez, juste pour toutes ces raisons historiques, pourquoi ces poésies des années 50, 60, 70 et encore aujourd'hui du monde africain ont un rapport un peu compliqué à la parole collective. Voilà, dire nous, ça n'est pas du tout évident, c'est une grande question. Le nous, c'est un grand point d'interrogation. On ne sait pas trop qui nous sommes. Alors à partir de là, je vais poser une différence entre deux paroles collectives très différentes pour qu'on comprenne bien un petit peu ce qui est en jeu ici. La première parole collective, c'est la parole collective traditionnelle. Donc là, je parle de la parole collective dans les pratiques poétiques traditionnelles, c'est-à-dire d'avant la colonisation, en fait, les cultures traditionnelles d'Afrique. Et après, on verra une autre parole collective, un autre nous, en fait, c'est deux nous différents, qui serait le nous moderne, des poésies modernes que je vous ai présentées sur ce polycopier. Alors, dans les pratiques poétiques traditionnelles, alors il faut bien comprendre que nous parlons de culture orale, donc nous sommes très loin de ce que nous concevons aujourd'hui comme de la poésie, c'est-à-dire quand même poésie écrite. Nous avons le concept d'œuvre quand même, à travers lequel c'est telle œuvre de tel auteur signée par un auteur. Dans les cultures orales, c'est extrêmement différent. Alors dans ces cultures là, la parole poétique, elle est toujours collective. Elle est toujours, tout est toujours collectif. Et c'est très lié aux mythologies, aux contes, aux légendes, à la vision du monde de ces cultures. Donc bon, j'ai pris quelques citations d'anthropologues qui sont spécialistes. Les paroles dans les sociétés traditionnelles d'Afrique de l'Ouest sont, je cite, « chargées tout à la fois de puiser l'énergie dans le grand réservoir de l'univers et de lui en réinjecter par leur rythme et leur cadence ». Donc ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait c'est ce qu'on a appelé longtemps l'animisme. Aujourd'hui on dit plus trop ça pour qualifier ces religions traditionnelles, mais en tout cas l'idée que le monde est traversé d'énergie, de fluide, d'une force vitale. Alors cette force vitale, elle existe dans de très nombreuses cultures traditionnelles d'Afrique, on lui donne des noms différents, dans des langues différentes, etc. Mais en général, il y a cette idée que la parole, alors du griot ou du prêtre, il y a différents rôles, ou même de la personne, tout le monde peut faire un peu de poésie, dire des petits poèmes comme ça dans la vie courante, elle puise son rythme dans cette énergie vitale du monde et elle en réinjecte. Le rythme des mots de celui qui fait de la poésie, qu'on n'appellera même pas un poète parce que c'est pas un métier séparé, il va mettre en mouvement la communauté, il va unir la communauté grâce au rythme, etc. C'est-à-dire, il va maintenir l'ordre du monde, l'ordre du cosmos. Bon, voilà, c'est un peu abstrait, mais c'est la vision traditionnelle. Un anthropologue allemand a proposé d'appeler ça le nomo. C'est un terme qu'il emprunte à la culture des Dogons. C'est un peuple du Mali actuel. La statue que vous voyez là, c'est un nomo. C'est un génie aquatique. Et donc, ce génie, donc, je lis la citation, j'explique après. Le nomo, la force vitale, est une unité de fluidité spirituelle physique qui donne vie à toute chose, pénétrant tout, rendant tout vivant. Et parce que l'homme a du pouvoir sur les mots, c'est lui qui dirige la force vitale. À travers les mots, il la reçoit, la partage avec d'autres êtres, réalisant le sens de la vie. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait avant. Alors évidemment, comme il y a plein de cultures différentes en Afrique, ça s'appelle pas toujours le nomo. Cet anthropologue, il a décidé d'en prendre un dans une culture et de le généraliser. Mais ce qui est intéressant, vous voyez cette statuette là qui est un peu la forme d'une vague. C'est un esprit aquatique et c'est pour ça qu'il incarne merveilleusement cette force de la parole. Parce que l'élément aquatique, c'est ce qui coule, c'est ce qui s'écoule, c'est fluide, c'est vraiment cette parole qui unit la communauté par le rythme. Vous connaissez l'importance du rythme dans ces sociétés traditionnelles. Donc ça, c'est la première parole collective, c'est la parole traditionnelle, donc qui unit tout le monde, Et l'autre parole, ce serait une parole moderne, une parole collective post-coloniale, qui arrive après les colonisations, et par lesquelles le poète dit nous également, donc c'est aussi une parole collective, je vous ai dit, il y a beaucoup de nous, mais non pas pour perpétuer une communauté, un ordre du monde, un ordre social qui existe déjà, mais pour le créer, en créer un, parce que il y a un vide, un creux, un manque. Donc, par exemple, Ernest Pépin. Donc, on va voir tout à l'heure une vidéo de lui, poète de Guadeloupe. Lorsqu'il dit nous, ça n'est pas évident. Ça n'est pas comme dans la culture traditionnelle où on sait exactement de qui on parle. C'est nous, la communauté, tel village, tel peuple, suite à l'esclavage, suite à la colonisation, ces communautés, elles n'existent plus en tant que tel. Donc, il faut susciter une nouvelle communauté, l'imaginer dans la poésie, l'inventer. Donc, vous voyez, c'est quand même un nous très différent. c'est un nous utopique. Voilà, on imagine une communauté qui existe pas forcément. Donc par exemple, si on regarde les poèmes, là, on va passer très vite hein, parce que le temps passe et je parle. Vous avez le premier poème que j'ai mis, c'est Léon Contran, Damas. Alors, pour ceux qui suivent l'Assemblée nationale, vous avez peut-être entendu Madame Taubira qui a récité ce poème à l'Assemblée lors des débats récents. Nous les gueux, nous les peux, nous les riens, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres. Donc ici, vous voyez, le nous, il est plus qu'évident puisqu'il est, il fait l'objet d'une anaphore, d'une répétition rythmique. Ici, on voit que le poète cherche à unir une communauté par une expérience négative. Nous, ce nous, c'est ceux qui sont rabaissés, ceux qui sont méprisés, ceux qui sont humiliés. Donc, on part de cette souffrance, de cette expérience commune du racisme, de la colonisation, de l'esclavage, etc., pour imaginer une communauté qui, évidemment, n'est pas du tout évidente. Il y a un côté performatif hein, pour ce poète qui était lié au mouvement de la négritude, Aimé Césaire, Senghor, etc. Cette communauté, elle doit advenir. On l'invente. On veut qu'elle arrive pour des raisons politiques. Hein. Voilà, se battre, lutter, etc. Idem, donc là, je vous ai mis plusieurs exemples. Brésilien, un auteur afro-brésilien au Brésil, même si environ une personne sur deux a des origines africaines, dire qu'on est africain, c'est pas du tout évident. Hein. On est brésilien, voilà, c'est tout. Peu importe, il y a toutes sortes de métissages, etc. Et certains poètes vont dire, non, nous, les Brésiliens noirs d'origine africaine, nous sommes victimes de racisme, donc nous devons nous unir à tous nos frères dans les autres pays, en Afrique, aux États-Unis, à Cuba, etc. Donc, vous voyez ici apparaître, avec toutes ces langues différentes hein, qui apparaissent sur la photocopie que je vous ai passée. Il y a de l'anglais, du portugais, voilà. Bon, et encore, je me suis limité aux langues que je comprends moi-même. L'espagnol, cubain, etc. Une volonté d'unir tout le monde. Par exemple, dans le poème d'Amadou Mustapha Ouad, qui est sénégalais, « Nous rassemblerons les terres disséminées », dit-il. Donc cette idée que les différentes communautés de ce monde africain sont disséminées un peu partout sur la planète et qu'il va les réunir. C'est ce qu'on a appelé le panafricanisme. Donc on est très loin d'une communauté évidente, traditionnelle, comme celle dont je parlais à l'instant. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que ces poètes contemporains, donc des années, on va dire, de l'après-guerre jusqu'à nos jours, 50, 60, 70 jusqu'à nos jours, ils vont aller puiser dans ces cultures traditionnelles, dans ce nous collectif traditionnel, des formes poétiques, des images, des idées, pour inventer cette communauté utopique dont je parlais, ce nous, ce collectif, cette parole collective, eh bien, ils vont s'inspirer de formes poétiques traditionnelles. Donc, par exemple, alors si vous voulez suivre le texte, je l'ai mis sur la dernière page. Donc, ce poète qui s'appelle Ernest Pépin, qui est guadeloupéen. Alors, il a exploité toutes sortes de façons d'écrire, voilà. Alors, la parole collective, ça peut être, ça n'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que la communauté est unie, uniforme, d'accord. Donc, dans sa poésie, comme dans la poésie de nombreux auteurs de la Caraïbe ou d'Afrique postcoloniale, il y a plusieurs voix dans une seule voix. Hein, il faut aussi voir ça, c'est-à-dire que le collectif est aussi pluriel, et ça c'est une évidence puisque ces peuples d'Afrique, ils ont plein de langues, ils ont été colonisés, ils parlent français, ils parlent anglais, ils parlent portugais, etc. Donc je vous ai mis un petit exemple là, il est seulement sur le PowerPoint, c'est un poème, vous voyez, où vous avez du français et du créole qui sont utilisés ensemble en fait. Donc pour parler de cet effacement par la colonisation, par l'esclavage, des cultures traditionnelles africaines. Donc, il voulait tuer jusqu'au bruit de nous-mêmes. Missier Limedi, Pétamboulin, Missier Labedi, pas fait veiller, ne parle pas créole, tout ça c'est bitin à Viennègue. Il voulait tuer jusqu'au bruit de nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire, monsieur le maire dit ne faites pas de tambour là, monsieur l'abbé dit ne faites pas de veiller. Tout ça c'est des affaires de vieux nègres. Voilà, donc ça c'est les parties créoles là que je traduis. Donc vous voyez le côté, enfin voilà, les Il y a plusieurs langues dans le même poème. Et ça, c'est un procédé très fréquent dans ces poésies. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on crée un nous nouveau, une parole collective, ou voilà, on implique d'autres gens, qu'on efface la diversité. Il y a aussi du pluriel dans ce collectif. Et donc, il y a des formes traditionnelles qui vont être empruntées par ces auteurs, que ce soit des formes africaines ou des formes caribéennes. Donc, par exemple, notre Ernest Pépin, alors lui, il est guadeloupéen, la grande forme musicalo-poétique en Guadeloupe, c'est le goka. Donc, voici un petit exemple. Vous verrez l'importance du rythme, je pense, assez évidemment. Voilà. Donc, c'est ce qui est intéressant dans ces formes traditionnelles, c'est ce qu'on appelle l'antiphonie ou le call and response. C'est un principe vraiment de base des musiques et des poésies traditionnelles africaines et caribéennes, enfin du monde africain en général. C'est tout simplement le fait qu'il y ait un soliste qui dit quelque chose et un chœur qui reprend. Ça, c'est vraiment la base. Donc vous entendez là que vous avez entendu là dans le goka, donc une forme caribéenne créolisée. Et Pépin va faire un voyage notamment en Côte d'Ivoire, et puis il va écouter des chants baoulés, donc c'est un des peuples un peu plaquants de la Côte d'Ivoire, et il va reconnaître ce principe d'antiphonie. Et ce principe d'antiphonie, donc un soliste qui dit quelque chose comme vous entendez là derrière moi et le chœur qui répond, pour lui comme pour d'autres poètes, ça va symboliser cette poésie nouvelle, moderne, qui va reconstruire une communauté, en fait. C'est-à-dire, la parole du poète sert à rêver, à imaginer, à créer une communauté pour être solidaire, se souder, voilà. Et il va l'appliquer à sa poésie. Donc ici, j'ai mis une vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une vidéo c'est une performance poétique d'Ernest Pépin qui a eu lieu en Colombie. Au festival de poésie de Medellín. Et donc il lit son poème en français devant des personnes en majorité hispanophones. Et ça rejoint un peu ce que je disais sur cet éclatement linguistique, culturel, il y a un peu de tout, voilà. Et donc il a distribué auparavant une traduction aux personnes, mais bon, ses paroles quand même sont dans une langue étrangère, et observez comment il va faire sien ce rythme-là qu'on vient voir dans des pratiques de musique ou de poésie oralisée, pour quand même créer une relation, un rapport, une communion poétique avec son auditoire, que ceux-ci comprennent le français ou pas, en fait.
Toujours nous avons dansé. Toujours nous avons dansé nos chaînes. Préserve au tam-tam les narines de la terre. Tes sons de cœur brisés, nous dansons. Fouler la terre est l'hymne composé sur la portée des vagues. Nous dansons. La musique créa l'homme en un seul frappé. Nous dansons. Vague contre rocher. Ping, bitak, bitak, ping, bitak, bitak, ping, bitak, bitak, ping, bitak, bitak. Pied contre terre. Soleil contre terre. Nous reprîmes l'écho. Chêne. Fouet. Calebasse. Bambou. Mayombe. Fût. La musique enfauche tous les chevaux. Nous dansons l'amble et le galop. Mandé dément, mandé désir, Ngoka, Ngola, enragé grage, lourd bagage de manioc, Begin Guinée, Siak, triangle. La mer porte les archives vives en un seul mémoré. Les balafons défont leurs songes, les courants s'accordent aux cordes du fouet. La mer est une sansa. Ah! Voilà l'antan bricolé au cordage de la terre. Le monde gonfle ses voiles en ailes de colère. Tambour, à cheval sur nos jours, nous faisons battre notre cœur. Ping, pitak, pitak,
pitak, pitak. Voilà. Donc, bon, je vais conclure hein, quand même pour pouvoir répondre à vos questions. Mais juste, je vais revenir à la question que j'ai posée au début pour refermer un peu tout ça. Je demandais, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a... le nous est si important, la parole collective est si importante. Donc le premier élément de réponse que je peux apporter, c'est que ça n'est pas tellement parce que c'était important dans les cultures traditionnelles d'Afrique, parce qu'après tout ça a été aussi important ailleurs. Certes, il y avait un aspect comme ça performatif de la parole dans ces poésies traditionnelles. La parole, ça unit la communauté, ça maintient l'ordre des choses. Mais en fait, ici, c'est bien autre chose. En fait, c'est pas une parole qui maintient un ordre, c'est une parole qui veut créer un nouvel ordre. Et l'espèce de mini-communauté qu'on crée avec son lecteur en tant que poète, avec les gens qui sont présents, vous avez vu qu'ici les gens tapaient dans les mains, etc., rentraient dans le rythme de sa parole, qu'ils comprennent ou pas le français d'ailleurs, cette communauté éphémère qui se crée entre le poète et les lecteurs ou les auditeurs, ça sert un peu de modèle à cette communauté qu'on imagine, qu'on essaye d'imaginer par la poésie, mais qui n'a pas vraiment d'existence évidente dans le monde réel. Donc finalement la question pourquoi une telle importance de la parole collective, c'est à cause en fait d'un manque de ce mystère initial. Qui sommes-nous, que disons-nous quand nous disons nous, quelle est notre communauté, à quelle communauté appartenons-nous? Eh bien ce nous, il surgit plutôt de ce vide, de ce flou. Voilà, j'arrêterai là. Donc je vais j'espère que vous avez des questions, que vous pouvez lancer des discussions.